Bonjour à tous, Shalom Lekoulam. Aujourd'hui, l'émission Les Faces Cachées de la Musique Juive vous propose un CD de la collection Patrimoine Musicaux des Juifs de France, publié par l'Institut Européen des Musiques Juives. La semaine dernière, nous avions écouté un CD de leur collection Découverte. Maintenant, ça va être Les Juifs Étrouverts. Ce sont des chansons juives du XIIIe siècle en ancien français, interprétées par l'ensemble Alla Francesca. Ces chansons viennent de la partie de la France située au nord de la Loire, soit les Flandres, la Picardie, la Champagne et l'Artois, et datent globalement de la deuxième moitié du XIIIe siècle. C'est cette partie-là qui est appelée Tsarfat. Pendant la deuxième moitié du XIIIe siècle, les Juifs vivaient comme les chrétiens et parlaient la même langue, soit la langue d'Oïle. Les chansons de ces communautés reflètent donc leur vie quotidienne, avec ses événements heureux ou tragiques. Par contre, les prières, les études et les poèmes liturgiques restent en hébreu. Ceci dit, dans les manuscrits qui nous sont parvenus, tous les textes, qu'ils soient en français ou en hébreu, sont en écriture hébraïque, la seule que les Juifs pouvaient écrire. On développera un peu plus l'aspect historique, mais je veux vous faire entendre un Dror Yikra de Tsarfat. Le texte a été écrit par Dounash Ben Labrat dans l'Espagne du Xe siècle et il a traversé deux siècles et se trouve dans le Marzor de Vitry, un livre de prières copié avant l'année 1203. La dernière strophe du poème de Dounash Ben Labrat a été modifiée pour coller à la réalité que vivaient les Juifs de ce moment-là. C'est plus tard que quelqu'un a rajouté dans la marge le titre de la musique sur laquelle ça devait être chanté et c'est ce que vous allez entendre maintenant. Pour l'anecdote, la chanson sur laquelle on devait chanter ce Dror Yikra était intitulée « Tuit sil qui son enamoraz » et on retrouve ça dans divers chansonniers. C'était de Rory Kera, interprété par l'ensemble à la Francesca sur Radio Shalom Montréal 1650 AM à l'émission Les Faces Cachées de la musique juive animée par Hélène Engel. Alors revenons un peu à l'histoire. Il y a des juifs au nord de la Loire depuis le 1er siècle. Au 10e siècle, les communautés de la France du Nord s'organisent d'abord en Champagne autour de rabbins réputés pour leur connaissance approfondie de la Bible et du Talmud. Et c'est dans la ville de Troyes, en Champagne, que vivait Rachi. Les Juifs du nord de la France avaient le sentiment de faire partie d'une même communauté spirituelle qui se reconnaissait sous le nom de Tsarfat. Au XIIe siècle, les rabbins de toute cette moitié nord de la France se sont réunis pour trouver des solutions aux problèmes de droit qui se posaient aux familles comme aux communautés. C'était des communautés d'une trentaine de familles, soit autour de 150 personnes, mais il y en avait beaucoup. Par exemple, il y en avait près de 150 en Île-de-France. Comme chaque communauté élisait son rabbin et son chazan, et que le boucher était nommé, ce sont les autorités communautaires qui répartissaient l'impôt. Jusqu'au XIe siècle, les relations étaient plutôt cordiales entre les Juifs et les chrétiens, mais en 1096, l'idée des croisades a commencé à se répandre, et petit à petit, les Juifs n'ont plus eu le droit de vaquer à leurs occupations ordinaires, telles que l'agriculture, puisqu'il y avait interdiction de posséder la terre, ou l'artisanat, vu que les corporations professionnelles n'acceptaient pas les juifs. Bref, il ne restait plus que la possibilité de prêter de l'argent et encore pas sur des gages fonciers. Ça, seule l'Église en avait le droit, ni faire du prêt commercial qui était aux mains des Lombards, c'est-à-dire la mafia de l'époque. La haine contre les juifs a été entretenue par les croisades. La première accusation de crime rituel date de 1171. En 1242, Louis IX, qu'on a appelé Saint-Louis, a organisé la première disputation publique entre la Bible et le Talmud. Il y en aura d'autres, plus célèbres d'ailleurs, par la suite, et en particulier en Espagne. Dans ces disputations, on accusait les Juifs d'avoir abandonné la Bible pour le Talmud. Aussi, on a brûlé le Talmud à la suite de la disputation de Paris. J'ai été très surprise d'apprendre qu'à l'origine de tout cela se trouve un Juif renégat, Nicolas Donnin de La Rochelle, qui devient franciscain, et écrit une lettre condamnant le Talmud au pape. 3 ans plus tard, le pape, Grégoire, ordonne que les livres soient saisis et brûlés. Saint Louis est le seul souverain à accepter ça du pape, mais à condition que les juifs puissent se défendre, d'où cette fameuse disputation entre 5 notables chrétiens et 4 rabbins juifs, au terme de laquelle 1200 livres seront brûlés. J'aimerais vous faire entendre maintenant un poème pour Rosh Hashanah, pour le Nouvel An, écrit par le savant français Joseph Tov Elem. Prêtez l'oreille, ce français est plus proche du français actuel que la langue d'oc ne l'est. Et moi, qui ai eu la chance de voir le texte écrit, je vois des similitudes aussi avec l'anglais. Le poème s'appelle « Roi de Poer » et « Poer » c'est « pouvoir » comme « power ». Intéressant. Et le mot gent, c'est les gens, ou en anglais gent.
Cedo chauffard, mon lourd et souhait éclate. Regarde en pitié sa jante et souhait galante. De peur de lui, les gars, sa jante et sérité à tuer sont espérantes.
Oh,
Crescement de paix, ferme-nous en ces temps, qui tes merveilles calmes, ou sauveureuses attend. Nous et toi sont venus, leurs prières entend.
C'était Roi de Poère, interprété par l'ensemble à la Francesca, sur Radio Shalom Montréal, 1650 AM. On se retrouve après la pause. Vous êtes de retour après la pause à l'émission Les Faces Cachées de la Musique Juive, animée par Hélène Engel, sur Radio Shalom Montréal, 1650 AM. Et nous découvrons la musique française juive du XIIIe siècle, avec l'album Juifs Étrouvert, publié par l'Institut Européen des Musiques Juives à Paris. Juste pour clore le chapitre historique, Philippe Auguste déclare la première expulsion des Juifs de France en 1182. Puis, il les autorise à revenir en 1198. Et puis, on remet ça en 1306, avec des retours et des redéparts tout le long du XIVe siècle, jusqu'à l'expulsion finale en 1394, qui marqua la fin de 14 siècles de présence juive en France. Les Juifs se réfugièrent alors dans le Dauphiné, en Provence, et dans ce qui deviendra plus tard le département du Vaucluse et qui formera la communauté des Juifs du Pape. Parlons maintenant de comment on peut entendre ces pièces, qu'est-ce qui est vraiment du XIIIe siècle là-dedans, etc. Pour commencer, ce sont des manuscrits sans notation musicale, sauf quelques très rares. La notation telle que nous la connaissons maintenant ne s'établit qu'à partir du XVIe siècle. Avant, Les moines utilisaient les neumes, une autre forme de notation, mais les juifs, non. Sur deux des pièces de cet album, à côté du texte, on a trouvé l'incipit, c'est-à-dire le début d'une chanson de trouvère courante à l'époque. Donc ce que faisaient les juifs, c'était de prendre une mélodie connue et d'y mettre le texte qu'ils souhaitaient chanter. Ce procédé, très commun à l'époque, s'appelle le contrafactum. Donc, pour deux textes, on sait sur quel air ils se chantaient, et vous en avez entendu un au début de l'émission, c'était le cas du Der Ort Yekera. Mais que fait-on pour les autres textes, ceux pour lesquels on n'a pas d'indication musicale? Le parti pris de Brigitte Lenne, qui fait partie de l'ensemble de Alla Francesca, a été de rechercher parmi les chansons qui nous sont parvenues de trouvères connus à l'époque dans cette région et d'utiliser celles sur lesquelles le texte se posait parfaitement. Et c'était le cas de la deuxième chanson, Roi de Poer, dont les paroles se sont adaptées très bien à la chanson Quand il tanze reverdois de Gas Brûlé. Les morceaux qu'on va entendre maintenant ont été écrits par Maïeu le Juif. Alors lui au moins c'est clair, c'est un trouvère qui a abandonné le judaïsme pour embrasser la foi de la dame qu'il aimait. Mais celle-ci, au lieu de le féliciter, s'est moquée de lui. Il nous reste que ces deux chansons de lui, et ce sont elles qui racontent l'histoire de cette conversion. Et donc la musique, là, nous est parvenue sous forme de neumes. On va commencer par la première chanson, Pour autrui m'ouvrez mon chant, qui signifie « Pour autrui, j'élèverai mon chant ». Je trouve la mélodie très jolie.
Son bel et vieux éclair.
C'était pour autrui mon vrai mon chant, interprété par l'ensemble à la Francesca, et vous êtes sur Radio Shalom Montréal 1650 AM à l'émission Les Faces Cachées de la Musique Juive. On va écouter maintenant la deuxième chanson de Maïeu le Juif où il raconte comment, alors qu'il arrive tout content pour déposer sa foi toute neuve aux pieds de sa belle, celle-ci se moque de lui. C'est sa chanson la plus connue, sans doute par l'universalité du thème. On la retrouve dans une douzaine de chansonniers estudiantins. On écoute par grand franchise. C'était par grand franchise interprété par l'ensemble à la Francesca et vous êtes sur Radio Shalom Montréal 1650 AM à l'émission Les Faces Cachées de la Musique Juive animée par Hélène Engel. On se retrouve après la pause. Vous êtes de retour à l'émission Les Faces Cachées de la Musique Juive avec Hélène Engel sur Radio Shalom Montréal 1650 AM et nous continuons la découverte de l'album Juifs Étrouvert publié par l'Institut Européen des Musiques Juives à Paris. Parlons un peu maintenant des troubadours étrouverts. On dit que le terme vient de trovar, qui veut dire trouver en général, et avant ça, inventer une chanson composée en vers. On pense que ça pourrait dériver du mot tropare, qui veut dire chanter, composer en latin. Et peut-être sous la forme de trope qui vient du latin tropus. D'autres étymologistes ont suggéré que ça pourrait aussi venir d'un mot en vieux provençal qui serait une déformation du mot latin turbare, qui veut dire déranger. Tiens, en anglais on dit disturb. D'autres encore disent que ça vient de l'arabe taraba, qui signifie chanter. Quoi qu'il en soit, troubadour et trouvère sont deux mots synonymes, l'un en langue d'oc et l'autre en langue d'oïle. Les Allemands disaient Minnesänger. Ça a commencé avec les gens du sud, donc avec les troubadours. Les trouvères sont arrivés plus tard. Alors les troubadours, c'était des nobles et des personnes cultivées qu'il ne faut pas confondre avec les jongleurs qui, eux, allaient de château en château colportant les chansons de l'un à l'autre. Mais la frontière entre les deux était assez souple. Il y avait des nobles qui n'avaient pas beaucoup de sous et qui faisaient office de jongleurs, et il y avait des jongleurs qui étaient très célèbres et bien établis. Il y avait une certaine forme de mysticité, si on peut dire, d'idées remarquables dans leur production. Et ça les rapproche de la poésie des Orientaux. L'Antiquité était un monde, et avec ses thèmes, qui leur était bien connu. Beaucoup de troubadours ont fait leur première éducation dans les couvents, et l'esprit de chaque lieu fait qu'il n'y a pas vraiment d'imitation. Allure vive, libre, hardie, légère de cette poésie, les idées qu'il alimente, son enthousiasme ou la vigueur de ses critiques, les formes de sa versification surtout, en font bien une littérature originale, même si on retrouve donc toutes les influences venues du couvent, des Grecs du chant oriental. Les troubadours faisaient profession de galanterie. Malgré les désignations mystérieuses qu'ils employaient pour nommer leurs dames, on savait presque toujours à qui s'adressaient leurs hommages. Et d'ailleurs, les maris n'aimaient pas toujours ça. Ça s'appelait l'amour courtois, qui naissait symboliquement au printemps pour s'éteindre à l'hiver. De cette abondante production poétique, il reste à peu près 300 mélodies, soit 10% des textes conservés. À côté de l'aspect courtois et amoureux, ces troubadours ont exercé une influence politique sur l'opinion des cours, se faisant parfois les interprètes des passions de la foule avec une liberté extraordinaire. Ils ont pesé d'un grand poids dans leur temps. Ils ont été en faveur des croisades en Orient. Certains princes ne dédaignaient pas d'être comptés au nombre des troubadours. Et le plus célèbre parmi ces princes sont Guillaume IX, comte de Poitou, Alphonse II d'Aragon et Richard Cœur de Lion. Les dames s'engageaient aussi dans cette carrière de la gaie science. Les troubadours disparaissent à la fin du XIIIe siècle. Et on va entendre un extrait d'une élégie, dont le manuscrit est conservé au Vatican d'ailleurs. C'est une complainte relatant le supplice de 13 juifs, hommes, femmes et enfants, condamnés au bûcher par l'Inquisition en 1288 dans la ville de Troyes en Champagne. Cet événement a donné lieu à la composition de 3 élégies, dont celle-ci est la plus connue, et a été traduite en langue d'oïle, en caractère hébraïque, ce qui a donné beaucoup de fil à retordre à Brigitte Laine, qui s'est accotée à la tâche de débrouiller tout ça. La musique utilisée est le contrafactum « Les Chastelains de Coucy à ma tante ». On écoute les 3 derniers couplets de l'élégie de Troyes.
Vers leur créance, pour qu'ils vont nous épérir. Il dit que, habitante, je veuille pour t'y mourir. Je suis Cohen, offrande de mon corps veux offrir. À peine échappera, puisque nous te tenons, deviens chrétien. Vif de son nom. On l'appelait Caïn, le maître de Brinon. Qui penchait, mon brûlé, penche nous défilons.
C'était un extrait de Mood Senti a Me Chef Miss, interprété par l'ensemble à la Francesca. Les trouvères apparaissent vers la fin du XIIe siècle. Le plus ancien était sans doute Chrétien de Troyes, auteur de Perceval ou le Comte du Graal. Au début, leur musique est très semblable à celle des troubadours, puis elle évolue à sa façon et devient moins grégornienne, plus légère et plus syllabique. Le nord de la France était à la pointe de la production de manuscrits et on a retrouvé près de 1700 mélodies pour 2400 poèmes. On a même retrouvé des chansonniers avec des neumes. Juste pour l'anecdote, parmi les trouvères du XIIIe siècle, il y avait Marie de France, et oui, celle de l'école du chemin Queen Mary. Écoutons un morceau instrumental juste pour le plaisir des oreilles, car il est très joli, mais c'est le gros défaut de ce CD, il y a 2-3 pièces musicales très agréables. Mais d'où elles viennent, pourquoi ces morceaux-là, pourquoi là, ça n'est pas expliqué. Bref, on écoute À une journée et Quand je vois l'alouette chanter. C'était Par une journée et Quand je vois chanter l'alouette, interprété par l'ensemble à la Francesca sur Radio Shalom Montréal 1650 AM. Alors quelques mots sur l'ensemble à la Francesca maintenant. Il a été formé au début des années 90, se consacrant aux musiques médiévales dans leur diversité depuis le XIe siècle jusqu'au début de la Renaissance, soit le début du XVIe. L'ensemble s'intéresse aussi aux musiques de tradition vivante comme les tarentelles italiennes, le chant séfarade ou la musique arabo-andalouse. Cet album est le 17e de Alla Francesca. Brigitte Laine et Pierre Hamon en sont les directeurs artistiques, mais aussi les interprètes. Brigitte chante, joue de la harpe, du psalterion et des petites percussions. Pierre Hamon joue des cornemuses et flûtes multiples. Et les trois autres membres sont le chanteur Lior Lebovici, la violiste Viva Bianca Luna Biffi et Michael Gribil qui joue du luth, de la citole et du sistre archet, entre autres. On va entendre maintenant le poème liturgique Shalfu Tsarim. Il était indiqué que le poème devait être chanté sur la mélodie d'une vaduri, c'est-à-dire une chanson d'amour, du trouvère Monio de Paris, et datant d'après 1250. Le contenu de la structure de ce piyout est totalement calqué sur la chanson de Monio. Le poète anonyme qui a écrit le texte a choisi des fragments de versets bibliques qui évoquent l'oppression des Juifs par Saint Louis et le rappel à la vengeance divine. Le rythme et la sonorité des mots hébreux correspondent à ceux de la chanson française. Je vous traduis juste les premières lignes. Les oppresseurs ont tiré leurs épées. Leurs cœurs ont formé des propos insincères. En persécutant le pauvre, ils ont détruit des villes entières. Thank you.
שלפו צרים חרבם ליבם, חפו דברים לוחן בקרבם, שדדו ערים אביון בריבם, כי רסם תפקנה. הוננו יתרים לחצות מריבם, וספו חברים אפר בורבם, ומפז יקרים דקרו בחרבם, חטצם לליבם תפלחנה.
C'était Shalfu Tsarim, interprété par l'ensemble à la Francesca sur Radio Shalom Montréal 1650 AM à l'émission Les Faces Cachées de la Musique Juive animée par Hélène Engel. On se retrouve après la pause. Vous êtes de retour à l'émission Les Faces Cachées de la Musique Juive avec Hélène Engel sur Radio Shalom Montréal 1650 AM à la découverte de l'album Juifs des Trouvères publié par l'Institut Européen des Musiques Juives à Paris. Cet album comprend 15 plages musicales dont nous aurons entendu 10 à la fin de l'émission. Donc, il vous en reste beaucoup à découvrir encore. De plus, le livret est vraiment très intéressant. Et puis, il y a toutes les paroles et on peut comparer le texte en langue d'oïl avec le texte en français d'aujourd'hui, ce que j'ai trouvé passionnant. Alors, je voudrais une note joyeuse maintenant. On va entendre deux chansons de mariage qui font entendre l'hébreu et la langue d'oïl imbriquées. La première qu'on va entendre est un dialogue entre le marié et la mariée qui aborde assez directement, ma foi, les choses du sexe. Cette chanson est extraite d'un manuscrit anonyme et a été posée sur une chanson de Coron de Béthune intitulée « Chanson légère à entendre ». Et la deuxième chanson garde aussi la métaphore de la nuit de noces comme une sorte de bataille entre deux mariés où les mariés se défient tout en s'encourageant l'un l'autre au même temps. Elle vient d'un des plus anciens recueils de prières connus que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner précédemment, le Marzor de Vitry. Elle est donc antérieure à 1202.
Jaffa, Janti Kalla Enore, Arimissi Bamitzpe, pour affaire ma pensée, à la Tirei, à Foti, pas servi, on vient par si, ni garari en tombernage, il les rapissi congale.
Thank you.
C'était Uri Likra Tiyafa et El Givat Halevona, interprété par l'ensemble à la Francesca sur Radio Shalom Montréal 1650 AM à l'émission Les Faces Cachées de la Musique Juive animée par Hélène Engel. Alors la pratique du contrafacta qui est de poser sur des poèmes des mélodies contemporaines à leur création, ça se faisait déjà à l'époque, ça se fait toujours. C'est une question qui se pose à bien des musiciens qui veulent retrouver la musique ancienne. Et en fait, je crois dans tous les domaines de l'art, quand une œuvre arrive incomplète entre nos mains, faut-il ne montrer que ce qui est ? Mais en ce cas-là, comme on n'a plus de musique, ces chansons ne seront plus jamais chantées, et si elles sont lues, elles ne véhiculent pas leur message à plein, puisqu'une chanson, ça doit se chanter. Utiliser des airs de la même période, qui ne sont probablement pas ceux d'origine, pour moi, c'est tromper sur la marchandise quand même. Même quand c'est clairement dit, car veut pas, l'air et le poème seront associés dans nos consciences actuelles. Personnellement, je préfère encore le choix d'écrire une mélodie dans le style 2. Comme ça c'est clair, ce n'est pas la musique de l'époque, mais en même temps, on essaye de rester dans l'univers sonore d'origine. Il y a aussi des artistes qui choisissent de remplacer ce qui manque selon leur fantaisie et leur compréhension de l'art aujourd'hui. Alors on va écouter une chanson de Pessah pour nous rappeler que ce travail de mémoire que nous faisons dans le domaine des traditions religieuses juives peut s'élargir à toute la culture juive, et c'est une manière de saluer au passage le beau travail de l'Institut européen des musiques juives de Paris. Elle est posée sur la chanson « En mai la rose ». On entend d'abord le poème récité en hébreu et ensuite chanté en langue d'oïl. Il s'appelle « La nuit de Pessah »« Leil Shimurim ».
כחצות לילה בתוך מצרים כיצא גיבור על אדום יחצנו כחצה דוד מעריב ערב ונזמרנו בנפש חפצה La nuit de Pessah je la veux partir Les Mitzrim tués ces Juifs garantis Rouet fort à contraire qui fait avec le peuple nous le louerons avec peu de partir avec peu de partir la nuit de
C'était La nuit de Pessah, interprétée par l'ensemble à la Francesca. J'ai beaucoup aimé ce CD. Je trouve aussi qu'il pose des questions importantes. Aussi, est-ce qu'on a cette idée de comment la musique ancienne devait sonner ? Est-ce que c'est vraiment comme ça ? Moi, j'ai un petit peu des doutes. Nos ancêtres, je ne crois pas qu'ils étaient plus calmes que nous. Et si nous, on avait du rock, je suis absolument convaincue qu'il y avait des équivalents du rock et du métal à la période du Moyen-Âge. Mais peut-être qu'on ne voit pas trop comment ils le faisaient. Et pour moi, dans nos restitutions, il me semble que cet aspect-là manque. Mais bon, ceci dit, ce qu'on fait à la Francesca, c'est vraiment très bien. Pour se procurer le CD, je vous conseille d'aller sur le site de l'Institut européen des musiques juives, soit le www.iemj, c'est les initiales de Institut européen des musiques juives, .org. Et d'ailleurs, c'est un site que vous devriez apprendre par cœur pour y aller souvent, car c'est vraiment intéressant. Et je vous dis à la semaine prochaine.